Du coup, merci à toutes et à tous qui êtes là. Je me permets de saluer tout particulièrement Philippe Fontaine, que j'aperçois. Donc, ravi de te voir malgré tout parmi nous, en dépit des difficultés techniques que tu m'avais dit rencontrer d'un point de vue informatique. Donc on est vraiment ravis que tu sois là. Plus globalement, merci à tous et à toutes. Donc cette journée Eros, désir, sentiment, que j'ai la grande joie d'ouvrir. Et je remercie beaucoup Aurélien pour sa persévérance et aussi pour toute l'organisation initiale déjà. Donc cette journée qui devait avoir lieu en décembre de l'année dernière, qui avait déjà été complexe à organiser dans le méandre de l'université rouennaise, et puis ensuite qui a été à plusieurs reprises différée, donc comme vous le savez, du fait des grèves SNCF, ensuite de la pandémie, et puis ensuite de problèmes de date au niveau des vacances de la Toussaint. Enfin bon, en tout cas, on est ravis Bonjour Philippe! On est ravis que cette journée puisse enfin avoir lieu, au moins sous la forme d'une demi-journée. Donc l'une des intervenantes n'a pas pu nous rejoindre, mais voilà, elle sera présente d'une autre façon, sans doute dans des actes. On verra comment on s'organise, des actes de la journée. Et en tout état de cause, donc voilà, on est très content de pouvoir avoir ces trois conférences cet après-midi. Donc je rappelle simplement pour commencer, Camille Moreau commencera par une conférence intitulée Du texte au sexe, phénoménologie de la lecture érotique. Et puis ensuite, donc, on aura une conférence à partir de 15h30, sans doute un peu plus tard, donc par Alexis Delamarre, Les sentiments ne doivent rien au hasard, affectivité, être au monde et désir chez Michel Henry et au-delà. Et enfin, une conférence d'Aurélien Dedon, intitulée Approche de l'être aimé et du monde amoureux. Entre les cristallisations, l'espace du désir. Je reviendrai sur chacun des intervenants, intervenantes, pour les présenter un petit peu plus rapidement au début de chaque conférence. Et donc, dans un premier temps, ce que je voudrais faire assez rapidement, c'est vous proposer une petite ouverture de cette journée qui sera consacrée à la fois à situer cette question de l'éros, des sentiments et des émotions dans le contexte. Disons historique de façon large et puis contemporain, et ensuite poser quelques hypothèses pour avancer sur cette question depuis l'existant, disons. Donc cette journée, en fait, évidemment, elle réinvestit une thématique qui a été assez largement explorée dans le cadre des études phénoménologiques. Donc on connaît évidemment un certain nombre de propos tenus par des phénoménologues sur la question de l'éros, de l'érotisme. Donc on peut citer Emmanuel Lévinas en tout premier lieu, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien, également Renaud Barbaras, à travers essentiellement la thématique du désir, à travers des ouvrages référentiels que je ne vais pas citer à nouveau pour gagner un peu du temps. Et donc on a une tradition phénoménologique quand même assez récente qui s'est penchée sur cette question, du moins de l'éros et du désir, et pas forcément des émotions et des sentiments. Donc en fait, dans notre thématique, finalement, nous rassemblons des fils qui ont été sans doute traités de façon un petit peu différente, voire disjointe, en fonction du moment historique de la tradition phénoménologique dans laquelle on s'inscrit. Puisqu'en fait, à côté de ces auteurs que j'ai mentionnés, qui sont au fond quand même assez récents dans leur intérêt pour cette question de l'éros, alors Emmanuel Lévinas étant peut-être un pionnier, enfin, avec son ouvrage Totalité infinie en 1961, mais ensuite les travaux autour de cette question en phénoménologie s'orchestrent plutôt à partir des années 2000 jusque donc encore récemment. Avec le travail de Renaud Barbaras, la métaphysique du sentiment, qui peut-être articule d'ailleurs désir et sentiment en 2016. Mais toujours est-il qu'en fait, on a une tradition historique plus ancienne, en amont finalement de ces travaux, qui a exploré davantage peut-être la question des sentiments et des émotions que celle de l'éros. Et là, par exemple, il faut se référer en ce cas à des auteurs comme des auteurs qui ont été en fait des disciples de Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie, et qui d'ailleurs se sont positionnés en réalité à l'époque contre Husserl. Donc c'est une école qu'on appelait l'école de Munich, qui était une école réaliste en fait, et qui s'est opposée à la position métaphysique, dite métaphysique de Husserl, en faveur d'un idéalisme transcendantal en 1913, dans Les idées directrices 1. Donc des auteurs comme Max Scheler, comme Theodor Lips, comme Moritz Geiger, Max Scheler étant sans doute le plus connu, en tout cas resté célèbre parmi les trois, mais qui ont chacun à leur façon, en adoptant un point de vue plus réaliste ou plus psychologique, abordé des thématiques relatives à l'émotion, à différentes émotions, l'empathie et l'amour pour Max Scheler, Theodor Lips plutôt la dimension du de l'Einfühlung, alors du ressenti interne, Moritz Geiger davantage la question de la jouissance. Donc ils se sont positionnés contre Husserl, qui apparaissait à l'époque comme un auteur idéaliste mais très centré autour d'une théorie de la connaissance, donc très peu enclin à faire droit aux émotions. Et puis dans la suite de la finalement, dans la succession de Husserl, on a aussi beaucoup d'auteurs qui se sont justement positionnés en faveur de cette dimension de l'affectivité. Alors, on peut penser évidemment au travail de Heidegger, le disciple le plus connu de Husserl, en tout cas à l'époque, autour de la tonalité des, la thématique des tonalités affectives, des Stimmungen, ou de l'affectivité elle-même. Et puis Michel Henry, donc, que j'ai déjà évoqué à propos de l'éros, qui met au centre la notion d'auto-affection. Donc on a deux thématiques d'une certaine façon qui se sont en partie construites de manière hétérogène et à des moments historiques différents, mais qui se sont aussi parfois un tout petit peu, où il y a des passerelles qui se sont un tout petit peu tissées. Donc c'est le cas notamment, je l'évoquais chez Renaud Barbaras, qui thématise à la fois le désir et le sentiment, mais c'était aussi le cas chez Michel Henry notamment, puisque dans un premier temps de son élaboration, dans les années 60, il met au centre l'auto-affection à travers son livre « L'essence de la manifestation ». Et puis beaucoup plus tard, en 2000, il produit donc à travers, dans son ouvrage « Incarnation », il produit donc une sorte de, d'esquisse de la question de l'éros. Donc on a effectivement, on pourrait dire une sorte, peut-être, il faudrait oser l'expression, une sorte de tournant érotique de la phénoménologie dans les années 2000, mais qui est anticipé par des questionnements critiques à l'égard de Husserl, et d'auteurs donc qui ont mis au centre l'affectivité et donc la dimension, par ce biais, la dimension émotionnelle. Alors, quelle est l'actualité de notre journée de ce point de vue-là? On peut dire qu'en fait, il y a plusieurs éléments qui convergent et qui nous ont amenés à remettre en scène une thématique de l'éros. D'une part, le travail d'édition des textes de Husserl sur les émotions, à travers les volumes des Studien zur Struktur des Bewusstseins, les études sur la structure de la conscience, qui est un texte de la première décennie en fait, du XXe siècle, un texte assez précoce, antérieur aux idées directrices 1, et qui se trouve donc, qui a été en cours d'édition pendant très longtemps en allemand, qui vient de, finalement de paraître en décembre 2020, donc tout récemment, et qui par ailleurs est aussi en finalisation de traduction chez Vrin, en partie en tout cas à travers un manuscrit intitulé Sentiments, donc je traduis et que je vais éditer avec Maria Guémant. Donc il y a un regard d'intérêt pour cette thématique et en fait le sentiment que peut-être Husserl n'avait pas tout dit et qu'on découvre un pan de sa phénoménologie qui est une phénoménologie des émotions. Donc ça donne une actualité à cette journée. Et puis cette journée s'appuie évidemment aussi sur les travaux de recherche de deux de nos conférenciers, donc Aurélien Dedon et Alexis Delamar, qui sont tous deux donc, dans des perspectives de recherche qui mettent au centre l'éros pour l'un, l'éros et l'érotisme pour l'un, et la phénoménologie des émotions de Husserl et au-delà pour Alexis Delamar, sans compter évidemment le travail de Camille Moreau, qui est plus centré à la croisée de l'esthétique et de la dimension des sentiments. Donc on a une actualité tout à fait intéressante avec de jeunes chercheurs tout à fait prometteurs. Sur le fond de ce travail d'édition, donc à nouveau des textes de Husserl sur les émotions, et je dirais aussi sur le fond d'une... je voudrais rappeler aussi un certain nombre d'avancées de numéros de la revue Alter, de la revue de phénoménologie Alter, qui ont, de manière, avec un certain nombre de jalons, qui ont déjà creusé cette question ou évoqué cette question. Donc il s'agisse de travaux plus anciens, en fait, consacrés à l'émotion et à l'affectivité, dès 1999, dans le numéro 7, qu'il s'agisse d'un numéro sur la pulsion en 2009, et d'un numéro sur l'éros en 2012, et puis tout récemment d'une journée d'études qui a eu lieu en novembre 2020 qui s'est intitulée Sexe et genre, et qui est donc disponible en audio sur le site de l'ERIAC et qui va apparaître en 2021. Donc on a là, vous voyez, toute une configuration à la fois de thématiques et d'intérêts à la fois historiques, anciens et de renouvellement qui motive largement le choix de l'organisation d'une journée et qui a pour caractéristique spécifique d'articuler justement des fils qui ont peut-être été toujours plus ou moins traités séparément, ou en tout cas avec certains empiétements partiels, mais qui, dont l'occasion nous sera fournie justement de voir comment ces différents fils se tissent. Alors, pour ce qui me concerne, au-delà de cette situation et de cette généalogie, je souhaitais en fait mettre l'accent, j'avais en tête un intitulé pour cette présentation, cette ouverture qui n'est pas du tout une conférence, mais qui ouvre la journée, un titre qui aurait été « La situation de l'éros », donc qui recouvre assez bien par ce titre le symptôme d'un intérêt ancien à renouveler et à retisser, et aussi donc d'une préoccupation par rapport à la manière dont, même encore récemment, dans les derniers travaux donc, que nous connaissons en phénoménologie sur cette question, l'éros et la dimension émotionnelle ou du désir a été traitée. Donc je voudrais peut-être juste terminer cette ouverture par la mise en évidence d'un symptôme concernant cette façon d'aborder l'éros du point de vue de la phénoménologie, l'éros, le désir et les sentiments du point de vue de la phénoménologie, en mettant l'accent sur une lacune, un point aveugle, à travers donc le prisme des travaux que j'ai recensés, on ne peut que remarquer l'absence d'un point de vue, hein, puisque le point de vue qui est mis en avant tout en se définissant ou se présentant comme universel et neutre est un point de vue essentiellement masculin. Il suffit juste de revérifier en fait les différents noms que j'ai mentionnés. On a essentiellement des phénoménologues hommes qui se sont attelés à cette question et donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui qui nous fait nous affronter finalement à un paradoxe de rendre compte d'une structure universelle de l'expérience, la structure érotique, la structure du désir en la posant comme universelle alors qu'en fait le point de vue qui est adopté pour en rendre compte est un point de vue partiel, est un point de vue limité. Et la question qu'on peut se poser ou qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de se demander dans quelle mesure finalement cette structure de l'éros n'est pas originairement genrée, c'est-à-dire ne repose pas de manière originaire sur la différence masculin, féminin, la différence de genre, la différence de sexe, comme on voudra le formuler, et que du coup, en réalité, ce qui ressort, c'est que cette universalité, elle ne peut peut-être pas être autre chose que située ou que partielle, ce qui évidemment peut apparaître comme une contradiction dans les termes, mais qui demande à être, à mon avis, travaillée, élaborée et assumée, et qui suppose de toute façon la mise en évidence de l'autre point de vue, hein, du point de vue féminin, qui peut être perçu aussi bien comme un complément nécessaire que comme peut-être plus radicalement la possibilité d'une mutation même de cette structure de l'expérience érotique. Évidemment, je voudrais juste mentionner à titre historique la nécessité d'une relecture que j'avais déjà largement proposée donc à l'automne dernier dans le cadre de la journée Sexe et genre, une relecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, donc cet ouvrage déjà très précoce finalement de 1949, qui permet en réalité non seulement de compléter la description de l'expérience érotique, en visibilisant l'expérience des femmes, en faisant ressortir justement ce qu'elle nomme elle-même la différence sexuelle, la différence érotique, et en faisant apparaître donc une autre dimension de l'expérience qui doit être pensée dans toute sa cohérence, dans toute sa vérité. Donc il y a un travail de visibilisation expérientielle à mener et de dénormativation finalement d'un universel qui en réalité ne peut être que partiel, à savoir l'expérience masculine de l'éros. Donc il me semble que non seulement il y a un complément à faire surgir pour travailler dans un différentiel, qui est d'ailleurs le creuset même de l'expérience érotique. Alors évidemment, l'expérience érotique est aussi une expérience auto-érotique, mais même dans l'auto-érotisme, finalement, il y a une altérité interne, c'est un terme qui m'est très, très cher, une altérité interne qui se loge immédiatement dans la mesure où l'auto-érotisme se fonde sur des fantasmes, repose sur des fantasmes, des images qui convoquent souvent une autre figure, une autre personne. Donc d'une certaine manière, il y a déjà une altérité à l'intérieur de l'auto-érotisme, et a fortiori dans la relation érotique, eh bien on est au cœur finalement, la différence est au cœur de la relation. Non seulement un complément, mais peut-être cette visibilisation expérientielle pourrait nous amener à faire muter l'éros, muter l'érotisme, et nous conduire à redéfinir l'expérience érotique elle-même. Et je terminerai juste sur ce point, pour m'en tenir donc à cette question. On peut se poser la question à partir de là, quant à la description même de l'expérience érotique, est-ce que l'expérience érotique telle qu'elle a été pensée dans la tradition phénoménologique masculine doit être privilégiée, mise en avant de manière exclusive à travers justement le désir et sa tension, à travers ce que Renaud Barbaras nomme, en prenant appui sur le théologien Grégoire de Nice, l'épectase, donc le mouvement du désir et de la mobilité et de l'accomplissement. Est-ce que l'expérience érotique doit être pensée à travers sa structure temporelle intermittente, y compris aussi dans sa retombée, dans ce qu'on appelle la petite mort, donc après l'éjaculation? Est-ce que ces traits donc doivent être considérés comme universels, ou est-ce qu'ils ne sont pas, au fond, partiel, non pas qu'il n'est pas une vérité, bien sûr, mais c'est la vérité située d'une expérience masculine. Et on pourrait se demander, à contrario, et en complément, et aussi en mutation, si l'éros ne se décrit pas également, au moins autant, par sa durée, à la distinction, par contraste avec son intermittence, donc par sa continuité, et pas par sa discontinuité, par son ouverture, par sa dimension réceptive et pas forcément par sa tension linéaire ou cumulative, et éventuellement également aussi par sa plénitude, c'est-à-dire par justement sa dimension d'une forme de plein et pas d'intermittence, donc qui serait quelque chose qui ferait apparaître du vide. Donc il me semble qu'il y a des traits descriptifs tout à fait féconds à faire ressortir, permettent d'élargir en fait à minima la compréhension de l'expérience érotique, et peut-être aussi de la transformer de l'intérieur. Alors il faudrait également ajouter une problématique qui est devenue visible plus récemment encore, je dirais, et qui pose à la phénoménologie, y compris de l'éros, des questions redoutables, pour lesquelles on peut se demander si elle est véritablement armée pour y répondre, à savoir des questions qui touchent à des problématiques de changement de genre, des problématiques liées à la dimension transgenre, et qui évidemment nous confrontent au vertige de la dimension identitaire sise au cœur même de l'expérience sexuelle, d'expérience genrée, de l'expérience érotique. Donc ces mutations, ou en tout cas ces changements et ces compréhensions donc des processus de transitionnement d'une identité féminine à une identité masculine, ou inversement, d'une identité féminine à une identité masculine, il est clair que la phénoménologie, dans sa dimension historique, n'a pas du tout œuvré en ce sens, n'a pas du tout creusé cette question, y compris dans ses prolongements les plus récents, donc entre guillemets dans les 20 dernières années. On a l'impression qu'on a affaire à une phénoménologie qui s'est déployée un peu hors sol par rapport à ces questions, alors même que ces questions étaient centrales dès les années 70-80 aux États-Unis. Et donc on a le sentiment que sur ces questions, la phénoménologie doit être mise à jour, entre guillemets, un peu comme une machine. Alors on ne va pas rentrer dans la métaphore jusqu'au bout en parlant d'obsolescence programmée, parce que ce serait évidemment pas juste et pas du tout pertinent. Mais il me semble qu'il y a, il faut peut-être changer de système et faire apparaître d'autres dimensions pour nous permettre d'entrer de front dans la question justement que pose la dimension identitaire de l'humain et la distinction entre finalement le genre et le sexe, ou le corps et l'identité profonde de la personne. Donc évidemment, ça va au-delà de l'éros et de l'érotisme, mais l'expérience érotique, elle repose tout entière justement sur cette, comme je disais, sur cette différence, hein, masculin-féminin, ou masculin-masculin, ou féminin-féminin, mais en tout cas sur un différentiel. Donc le différentiel, ici, évidemment, change de sens, puisqu'il s'agit d'un différentiel interne à une personne, et il est pensé de manière dynamique, dans le cadre de ce qu'on appelle, on va appeler un transitionnement, hein, une transition, un processus. Et donc ces questions, évidemment, elles demandent à être affrontées en tant que telles. Alors sans doute, elles vont au-delà de la journée et de la portée de notre journée aujourd'hui. Mais il me semble que voilà, peut-être ça suscitera une deuxième journée d'études. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, éventuellement... Je regarde l'heure pour voir où on en est. Voilà, donc 14h31, ça va, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Donc sans transition, on ne va pas faire un petit échange maintenant. Je pense que ce serait prématuré. Ça pourra peut-être, les questions viendront ensuite, éventuellement. Mais ce que je propose, c'est qu'on enchaîne directement sur la conférence de Aurélien. De Camille, pardon, excusez-moi, dans le programme, de Camille. Et puis peut-être que après la conférence de Camille, de toute façon, on aura un temps d'échange, un temps de discussion. Et éventuellement, si vous avez des questions concernant l'ouverture de cette journée que j'ai prise en charge, on pourra aussi les prendre à ce moment-là. On peut faire peut-être un petit temps d'échange commun entre Camille et moi. Et puis ensuite... voilà, on fera peut-être une pause aussi à ce moment-là, avant les deux autres conférences. Donc voilà, donc je vais couper l'enregistrement.